RCF. Fidèles auditeurs, auditrices de RCF et de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry se raconte avec Agora Défense. Bonjour. Nous poursuivons nos rencontres avec les grands témoins et acteurs de la vie militaire dans le Cher et le Berry. Après avoir reçu l'amiral Mallard, acteur et grand connaisseur de notre marine nationale, et Loïc Kervran, député, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, nous accueillons aujourd'hui le général de division Serge Baribeault, ancien commandant de l'ESSAM, au parcours très intéressant. Alors d'ailleurs, pourquoi cette affirmation? Vous n'êtes pas passé, mon général, par l'école militaire de Coëquy dans Saint-Cyr. Là débute votre histoire. Mais avant de débuter, bonjour mon général et bienvenue sur RCF.
Eh bien bonjour.
Alors ma première question va très certainement vous paraître un peu saugrenu. Comment devient-on général?
Oui, alors, c'est à la fois une suite de hasard, de choix, et puis un petit peu de persévérance.
Autre question, y avait-il une tradition militaire dans la famille Baribeault?
Non, absolument pas. Non. Alors, je dis une suite de hasard, parce que le premier hasard, c'est le décès de mon père. J'avais 15 mois, il est décédé en 1946. Maman s'est remariée avec un gendarme en 1950, gendarme à l'esprit très militaire, qui m'a orienté vers une école d'enfants de troupe.
Alors justement, pouvez-vous me retracer un peu ce parcours d'enfants de troupe, collège, lycée? Alors, parce que ça c'est intéressant parce que vous correspondez, si vous voulez, à une époque qui n'existe plus maintenant. C'est ça l'histoire.
Ce qu'on appelle les enfants de troupes, ce n'était pas les enfants de troupes du 19e siècle.
Non.
Les écoles militaires préparatoires ont été créées en 1884 par le général Boulanger. Ceci pour mettre fin, en fait, aux enfants de troupes régimentaires. Certains régiments avaient des écoles régimentaires qui accueillaient les enfants de sous-officiers, parfois d'officiers. Victor Hugo était enfant de troupe.
Ah oui.
Son père était général et il a été enfant de troupe effectivement au début du 19e siècle. Donc ces écoles ont fonctionné jusque dans les années 80 et les lycées militaires actuels ont succédé à ces écoles militaires préparatoires. Les écoles militaires préparatoires, on y est entré en 6e ou en 5e dans les deux écoles techniques. Il y avait deux écoles militaires préparatoires techniques qui était patronné par le matériel, le service du matériel. Ces deux écoles étaient à Tulle et au Mans. Et moi, je suis entré à Tulle en 1956, en cinquième, sortant de ma communale. Premier uniforme, c'était à 11 ans, 1956. Dans cette école, on rentrait en cinquième ou en quatrième. Moi, je suis rentré en cinquième. Et il y avait, au cours de la scolarité, une sélection, en fait. Nous étions, au départ, 5 classes, on appelait ça des sections. 5 sections en quatrième, et en terminale, il restait 2 petites sections, voilà, pour le bac technique. Et ensuite, après le bac, on avait le choix à se présenter entre les grandes écoles militaires.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, mon général?
Alors, moi, je voulais devenir aviateur. Voilà.
Ah bon?
Pour aller en prépa à l'école de l'air, la classe préparatoire se trouvait au Prytanée militaire de la Flèche. Il fallait faire de l'anglais. Or, dans l'enseignement technique, on ne faisait qu'une langue à l'époque. Et, pas de chance, je faisais de l'allemand. Donc, je n'ai pas pu aller en préparation à l'école de l'air. Et parmi les grandes écoles militaires, il y a, Saint-Cyr, ça ne me tentait pas beaucoup. Il y avait une seule école civile, c'était les arts et métiers, l'école nationale supérieure des arts et métiers. J'étais bon en technique, bon, donc j'ai tenté les arts et métiers.
Donc vous avez fait ce qu'on appelle les gazards.
Voilà, et j'ai fait donc mes études supérieures d'ingénieur à l'école des arts et métiers.
En tant que militaire ?
Alors, en tant que militaire, alors lorsqu'on était reçu aux arts et métiers, on souscrivait un engagement de 10 ans, à la fois pour rembourser nos études secondaires dans les écoles militaires et pour payer en fait nos études aux arts et métiers. L'armée prenait tout en charge. L'engagement de 10 ans recouvrait les 4 ans de scolarité aux arts et métiers, puis 6 ans après.
Voilà. Et donc, quelle est votre première affectation, mon général ?
Alors, ma première affectation, ça a été les SAM.
Ah, les SAM !
Puisque au cours de notre scolarité aux arts et métiers, donc on arrivait comme soldat, on devenait brigadier, brigadier-chef, sergent. Donc à la sortie des arts et métiers, j'étais maréchal des logis dans le service du matériel. Et à la sortie des arts et métiers, il fallait faire une école d'officier pour devenir officier.
Oui.
Donc ma première affectation, c'était l'ESAM, l'École supérieure et d'application du matériel, pour devenir officier du matériel.
D'accord. Et vous êtes arrivé comme aspirant. Voilà. Aspirant, et vous êtes sorti sous-lieutenant.
Aspirant, sous-lieutenant, voilà. Donc je suis sorti sous-lieutenant en 1971, et ma première affectation d'officier, donc sous-lieutenant, a été la section de réparation à latte du Galdivons. Alors ça demande quelques explications, parce qu'en cours de scolarité à l'ESAM, on choisit une spécialité, on choisit un métier, en fait, dans le matériel. Nous étions obligatoirement affectés dans le matériel, puisque c'était le service du matériel qui avait financé nos études. Donc on choisissait une spécialité dans le matériel. Et le hasard et la chance a voulu que je puisse prendre la spécialité aviation légère de l'armée de terre.
Ah oui, enfin, un demi-rêve accompli.
Je retombais un peu sur mes pattes. Et donc je suis devenu officier mécanicien des matériels aériens de l'armée de terre.
Ah très bien. Alors quelles sont vos différentes affectations ? Vous êtes sous-lieutenant, lieutenant, et ensuite les grades se franchissent.
Il faut quelques années. Quand
quelques
même.
Années, je sais qu'il faut quelques années.
Donc, lors de ma première affectation, le Galdiv, c'était le groupe d'aviation légère de la 11e division parachutiste.
Ah d'accord, dans le sud-ouest là.
Quand je me suis présenté à mon capitaine, la première chose qu'il m'a dit, ici, tout le monde est parachutiste.
Donc,
je suis devenu, j'ai suivi la formation d'officier des troupes aéroportées. Et je suis devenu
parachutiste, breveté.
Oui, bien sûr. Mais mon métier, c'était quand même le soutien des matériels aériens.
À l'époque, qu'est-ce que nous avions comme matériel aérien, hélicoptère ?
Au Galdivons, il y avait deux escadrilles d'Alouette 2, c'est-à-dire l'observation. Une escadrille d'Alouette 3, hélicoptère d'attaque, qui était armée de SS-11, un missile filo-guidé.
Filo-guidé, oui, je connais.
Et une escadrille de Puma, SA-330, qui venait d'entrer en service, qui était un hélicoptère de manœuvre capable de transporter 15 commandos.
Vous aviez des mécaniciens avec vous, je pense.
J'ai commandé une section,
une section
de réparation pour soutenir ces appareils. Ça représentait une quarantaine d'appareils pour les opérations de maintenance courantes.
Est-ce que vous avez été projeté ?
Alors non, parce que j'étais tenté évidemment de devenir pilote.
Oui, toujours.
C'était ma première idée.
Oui.
Et donc j'ai posé ma candidature pour devenir pilote d'hélicoptère. Et je suis parti en stage pilote relativement rapidement. Il y avait à peine un an que j'étais dans mon affectation. Bien que le Galdivons était l'unité, effectivement, qui était projetée.
Oui.
C'était l'époque du Tchad.
Du Tchad, oui.
J'ai convoyé deux ou trois appareils. On envoyait des Pumas, notamment au Tchad, à bord de Transal.
Oui.
Donc il fallait démonter partiellement le Puma, l'entrer dans le Transal. Ça rentrait pratiquement avec un chausse-pied.
On pouvait en mettre combien ?
Ah ben, un seul.
Un seul ?
Oui. Il fallait démonter partiellement le rotor, enfin bon.
Ah oui.
Et remonter à l'arrivée, donc voilà. Mais mis à part ça, je n'ai pas fait de séjour.
Alors vous avez progressé donc en métropole ?
Oui, totalement, oui.
Lieutenant, capitaine, commandant de compagnie.
J'ai quitté assez rapidement Pau, parce qu'à l'issue de mon stage pilote, j'ai été affecté à le même type d'unité, mais Trèves en Allemagne, au Galdivin, donc qui était le groupe d'aviation légère divisionnaire de la première division à Trèves, comme chef de section. J'étais à la fois officier mécanicien et pilote. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait une spécialité de pilote de maintenance Ces pilotes étaient chargés d'effectuer les vols, dits vols d'orientation, c'est-à-dire avant d'entrer en visite, un vol technique sur les appareils, hein, de manière à en faire l'inventaire de ce qui était les opérations nécessaires, et à la sortie de réparation, de contrôler que l'appareil était conforme.
Donc vous avez bien obtenu quand même votre brevet de pilote d'hélicoptère.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui.
Ah, très bien. Donc capitaine, commandant.
Puisque vous m'avez demandé comment on devient général.
Oui, exactement, tout à fait.
J'y reviens.
Voilà. Tout à fait.
Dans l'armée, comme dans beaucoup de corps de l'État, pour progresser en cours de carrière, il faut souvent faire un deuxième épisode de formation. Dans l'armée, c'est soit l'école de guerre, soit un brevet technique. Oui. Bon, j'appartenais à une arme technique, donc je me suis naturellement orienté vers le brevet technique. C'est un concours qui se passe au niveau du grade de capitaine après le temps de commandement de capitaine.
D'accord. C'est-à-dire
après avoir commandé une compagnie. J'ai été candidat à ce concours alors que j'étais formateur, dit-on maintenant, à l'ESSAM. J'ai été reçu, donc j'ai entamé une deuxième phase de scolarité. J'ai refait une école d'ingénieurs, l'École nationale supérieure des techniques avancées, l'ENSTA, qui est l'une des écoles d'application de l'école polytechnique. Ensuite, j'ai refait une troisième école d'ingénieurs, l'école du personnel navigant d'essai et de réception, et je suis devenu ingénieur navigant d'essai.
Et une belle carrière, dites donc. Et vous avez toujours poursuivi des études en permanence, mon général?
Alors, le cycle d'études dure 3 ans, en fait. Ce deuxième cycle d'études. L'ENSTA, l'EPNER et, enfin, l'école de guerre. Et alors, pour le parcours brevet technique, on rentre à l'école de guerre sur titre. Mais on n'effectue que la première année.
D'accord.
Voilà. Donc, au bout du compte, on sort officier breveté. Donc, avec des perspectives de carrière qui sont plus élargies.
Plus élargies, voilà.
Si on n'est pas breveté.
Exactement.
Voilà.
Donc, voilà. Donc, vous êtes généralisable à un moment ou à un autre.
On devient généralisable.
Voilà. C'est bien ça.
À partir de ce moment-là.
À partir de ce moment-là.
Alors, il y a quelques exceptions. Il y a quelques types qui ne sont pas brevetés et qui deviennent généraux. Le plus bel exemple en est le général Bijard.
Oui, bien, oui, Bijard. Oui.
Qui n'est jamais passé par l'école de guerre.
Oui. Mais c'est une autre époque.
Qui avait des qualités.
Une autre qualité, oui. Vous devenez général de division.
Avant, il y a d'autres.
Avant, oui. Vous avez été lieutenant.
La carrière d'un officier est faite d'un certain nombre de passages obligés. En cours de scolarité à l'école de guerre, je suis devenu commandant. Et il faut effectuer un passage en état-major et un commandement de chef de corps.
Et vous avez été chef de corps où ?
J'ai été directeur de l'établissement de réserve générale de Montauban, qui était l'établissement spécialisé dans la maintenance des hélicoptères et de tous les matériels de largage parachutage des armées, l'ensemble des parachutes et des matériels de largage des armées.
Une grosse responsabilité.
À l'époque, il y avait plus de 600 personnes. Hein, c'était un établissement important. Oui.
Donc, chef de corps.
Donc, après chef de corps, il y a un petit passage à vide, là, parce que quand on est chef de corps ou directeur d'un établissement, on a un certain nombre de personnel. C'est une période assez enrichissante et assez passionnante. Et après cette période-là, on se retrouve forcément en état-major, dans un petit bureau.
En attente.
Avec quelques crayons.
En attente.
La vie est différente. Voilà.
Oui.
En attente, oui et non, parce que on a aussi un travail passionnant qui est d'une autre nature. Effectivement, il faut attendre un certain nombre d'années. Et si tout va bien, on devient général. Voilà. J'ai été nommé général de brigade en 1997, donc j'avais 52 ans, dans la moyenne.
Et général de division.
Et général de division, 3 ans après. Ouais.
Quand avez-vous pris le commandement de l'ESSAM ?
En 2000.
Vous avez été commandant de l'ESSAM de
2000 à 2003.
2000 à 2003. Hein, parce qu'en fait, le commandement, généralement, c'est une durée de 3 ans.
Dans mon premier poste de général, j'étais directeur régional du matériel de la région Nord-Est. Donc le siège de cette direction se trouve à Metz. Enfin, qui reste la région la plus importante. Plus de la moitié des forces françaises sont stationnées nord-est.
Très bien. Alors, mon général, je tiens à vous remercier pour ce bref retour sur votre carrière. Et mon général, je vais vous retenir pour une seconde émission. En effet, je vais vous poser un certain nombre de questions plus générales par rapport à l'armée, hein, donc un certain nombre de questions. Nous allons clore cette première émission, après avoir eu tout le détail de votre carrière. Merci, mon général, pour votre témoignage. Merci à vous et bonne écoute.